Bonjour à toutes et tous. Si vous vous intéressez aux questions de défense et de sécurité, vous savez ce que représente le salon Eurosatory qui se déroule tous les deux ans à Paris. C'est cette année la 28e édition qui se tient du 17 au 21 juin prochain à Paris-Nord-Villepinte. Et Eurosatory, qui sponsorise cet épisode, sera comme à chaque fois le grand rendez-vous mondial de la défense et de la sécurité. Je veux juste dire, c'est un événement que je trouve très étonnant, assez fascinant. J'y suis allé pour la première fois il y a deux ans pour l'édition 2022. Et vraiment, si vous vous demandez ce qui se fait dans le monde militaire et en matière de sécurité, c'est là qu'on peut voir les dernières tendances, depuis les plus grandes geekeries et les innovations du moment, jusqu'aux grands équipements du futur pour les armées et les forces de sécurité en France et dans le monde. Bref, si vous intéressez de près à ce monde-là, c'est le moment de vous inscrire pour ce qui sera la plus grande édition de l'histoire du Salon, avec plus de 1900 exposants et 60 000 visiteurs. Vous pouvez le faire en allant sur eurosatory.com. Bonjour à toutes et tous, et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode, dans le bunker de films, consacré aux films ou aux séries de guerre, ou en tout cas qui ont trait au monde militaire, j'ai le plaisir de recevoir Benoît Tréglaudet, directeur de recherche, responsable du domaine Afrique, Asie, Moyen-Orient à l'IRSEM. Donc bonjour.
Bonjour Alexandre.
Je vais rappeler que vous êtes déjà venu dans le podcast pour nous parler du Vietnam, dont vous êtes un spécialiste. Et c'était une émission qu'on avait fait sur la géopolitique du Vietnam. Mais au-delà de ça, ça connecte tout à fait avec le film dont on va parler aujourd'hui, qui est donc évidemment le Apocalypse Now de Francis Ford Coppola, sorti en 1979 et récompensé d'ailleurs de la Palme d'Or. Cette année-là, alors je veux dire, les auditeurs les plus attentifs de ce format souviendront peut-être qu'on a déjà fait un épisode sur Apocalypse Now avec Yves Trottignon. C'était à la toute fin du premier confinement. C'était, je crois, le dernier épisode de cette longue série qu'on faisait quotidiennement consacrée à des films ou des séries, à des recommandations en tout cas. Mais ça m'intéresse, je commence à me dire que c'est tout à fait intéressant de revenir aussi sur certains films ou sur certaines séries, notamment les plus marquants, parce que c'est souvent possible de les interroger avec des regards un petit peu complémentaires, et évidemment, le regard du spécialiste du Vietnam n'est pas exactement le même que celui du spécialiste du renseignement cinéphile qui était Yves Trottignon. Et c'est notamment tout à fait le cas pour Apocalypse Now, parce que, c'est amusant, je peux dire, dévoiler un peu les coulisses du format. Souvent, je demande à des invités, des gens qui sont plus ou moins proches du podcast, s'il y a un film ou une série qu'ils voudraient traiter. Et je pense que c'est la réponse dans 50% des cas, Apocalypse Now. C'est-à-dire que c'est un film qui, de toute évidence, focalise l'attention, passionne les spécialistes, disons, du fait militaire au sens large. Et je suis donc très heureux de pouvoir le revisiter sous un angle un peu différent. Notamment celui de savoir ce que ça dit ou ce que ça ne dit pas, d'ailleurs, du Vietnam et de la guerre du Vietnam, mais plus largement du pays dont on peut dire qu'il est à la fois omniprésent et en même temps paradoxalement peut-être un peu absent du film quand on le revoit. Alors, première question, Benoît Tréglaudet, en fait, pour entrer dans le sujet, parce que alors, je peux résumer le synopsis, évidemment, donc dire que c'est cette longue errance du héros, donc joué par Martin Sheen. J'ai même pas donné le casting, mais tout le monde le connaît, je crois. C'est donc Martin Sheen, Marlon Brando, Dennis Hopper, Robert Duvall, Laurence Fishburne, un tout jeune Laurence Fishburne aussi, et même Harrison Ford d'ailleurs. Mais bon, au-delà de ces faits, comment caractériser ce film? C'est donc un long voyage de Martin Sheen, donc le capitaine Benjamin Willard, officier des forces spéciales, pour retrouver le colonel Kurt au fin fond de la jungle vietnamienne, colonel que l'armée, que les hauts officiers américains veulent retrouver parce que il est parti et sa disparition inquiète, surtout ce qu'il fait dans cette disparition inquiète. On l'a parfois dit, mais c'est un synopsis qui a été plus ou moins adapté du roman de Joseph Conrad, Au cœur des ténèbres, qui se passe pas du tout au Vietnam, qui se passait en Afrique. Mais bon, donc la première question, pour y revenir, pour vous, ça parle de quoi, Apocalypse Now, Benoît Tréglaudet ?
Premier élément de réponse, cet opéra baroque de Francis Ford Coppola, a été pensée dans une chronologie qui est celle de l'histoire contemporaine des États-Unis au XXe siècle, de ce choc qu'a pu représenter pour les États-Unis ces hélicoptères qui ont évacué les derniers ressortissants américains du toit de l'ambassade américaine à Saïgon le 30 avril 1975. Et c'est trois jeunes Américains de l'époque qui ont écrit ce film, marqués par ce traumatisme, par cette défaite de l'armée la plus puissante du monde devant un petit pays de paysans soutenus par plusieurs nations anti-impérialistes. Et c'est ça, en fait, le cœur de l'histoire d'Apocalypse Now. Vous l'avez fait remarquer, Coppola ne s'intéresse assez peu aux Vietnamiens. On les voit très peu dans le film. Immanquablement, j'ai pensé à Deliverance, le film de John Boorman qui avait été fait au début des années 70, où c'est pareil, où l'ennemi est caché dans la nature, il est invisible, etc. Mais là,
symptomatiquement... Alors, Deliverance, simplement, on peut mentionner, c'est amusant, je n'aurais pas pensé comme parallèle. C'est un film très, très bizarre sur... qui se déroule, c'est quatre amis qui font une descente en kayak, en canoë d'un fleuve des États-Unis qui se font attaquer par... vraiment les populations locales, mais au cœur des États-Unis. Et effectivement, il y a quelque chose comme ça aussi, de des gens qui sont perdus dans l'immensité de la nature et de l'environnement, et puis derrière, ces personnages offensifs, cette menace qui est un peu partout, quoi.
On pourrait multiplier les exemples, mais c'est vrai que la première conversation que Willard a quand il rencontre Kurtz, au cœur de la jungle, du côté cambodgien, avec un décor incroyable. La première conversation que les deux hommes ont, c'est de parler de l'Ohio, leur état d'origine, de cette rivière de l'Ohio, alors que Willard vient de remonter la rivière Nung à travers un paysage incroyable et des dangers démentiels. Et les deux hommes se rencontrent et parlent de l'Ohio. Ce film est une folie de Coppola et de ses co-scénaristes autour de l'histoire américaine au XXe siècle. C'est ça qui est intéressant, c'est que ce film a été écrit à trois, en fait. Et c'est intéressant de voir qu'il y a Michael Hare, qui était un correspondant de guerre, qui, lui, a véritablement vécu la guerre du Vietnam pour le magazine Esquire. Il est resté 2 ans, me semble-t-il, au Vietnam pendant dans les années 60. C'est lui qui a nourri de l'intérieur, en fait, ce récit. Et par contre, effectivement, ça a été aussi écrit, on l'a dit plusieurs fois, par John Milius, qui, lui, avait essayé d'aller... qui était fan, qui est une sorte de personnages mythiques dans le Hollywood des années 60, 70, 80, scénaristes, réalisateurs, et qui avait essayé de se faire de partir au Vietnam.
Qui est un peu dingue, on peut dire.
Qui est un peu dingue.
John Milius, c'est le mec dont tout le monde savait à Hollywood qui avait toujours des flingues sur lui. C'est celui, pour donner peut-être un exemple un peu révélateur, c'est le réalisateur de Conan le Barbare. Et c'est pas rien, enfin ça dit quelque chose. John Milius, c'est une relation à la masculinité, à la guerre, au feu violent, au fait guerrier, qui est quand même très romantisé, quoi. C'est pas quelqu'un.
Et c'est intéressant de savoir que lui, il avait essayé de s'engager au Vietnam dans les années 60 et on l'avait déclaré inapte pour des raisons de santé. Ça a toujours été une énorme frustration, en fait, de Milius vis-à-vis du Vietnam. Mais dans les années 70, il est obsédé par le Vietnam, il est obsédé par cette défaite du Vietnam, il est obsédé par ce monde qui tombe. Et ce qui est intéressant, effectivement, c'est qu'on l'a souvent dit, voilà, il y a une tonalité très psychédélique dans Apocalypse Now, avec ces fumigènes roses, violets, avec cette musique des Doors qui revient en permanence. Mais c'est un film qui est un film punk. C'est un film qui tourne le dos, en fait, à cette Amérique des années 60, avec beaucoup d'amertume, avec beaucoup de sentiments de défaite, de fin d'un monde. Et c'est vraiment un film très punk de ce point de vue-là, parce que c'est un film qui met un couteau dans le dos dans cette pop culture qui a guidé la soft diplomatie américaine dans les années 60-70 et qui montre qu'un monde est fini et un monde va s'ouvrir, et en tout cas il se termine dans la folie des hommes, dans la folie. Il y a pas une séquence de ce film qui n'est pas tournée autour de l'idée de folie américaine et de déconnexion, encore une fois, entre le terrain qui est caractérisé par ce Vietnam que le capitaine Willard découvre en remontant cette rivière Nung, qui n'est pas du tout une rivière imaginée, hein, qui est une rivière qui existe, en fait, dans la province de Kon Tum, à proximité de la frontière cambodgienne. Et donc, il y a un territoire réel, mais qui n'est pas peuplé, encore une fois, de figures indigènes ou vietnamiennes qui peuplent ces régions, cette nature. La séquence qui est amusante de ce point de vue-là, c'est quand le chef, le saucier de la Nouvelle-Orléans, qui fait une première sortie dans la jungle pour aller chercher des herbes, etc., pour cuisiner, rencontre, se retrouve nez à nez avec un tigre et se commence à tirer de tous les côtés. Et c'est cette folie-là, en fait, qui est confrontée à la nature, au réel que les Américains ou les protagonistes de l'ensemble de ce film ne comprennent pas. Et c'est vraiment un dialogue très intéressant de ce point de vue-là, parce que c'est une page qui se tourne entre une histoire de l'Amérique de la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à la défaite de Tsongkha, jusqu'à la défaite du 30 avril, et c'est un coup de massue, en fait, c'est ça qu'on a dit, en fait, avec, je pense à Coppola, mais je pense naturellement à Cimino, qui avait réalisé l'année précédente ce grand film sur le Vietnam, et les États-Unis, qui était Voyage au bout de l'enfer. Le nouvel Hollywood, représenté par cette nouvelle génération de metteurs en scène tout puissants, parce que leurs films marchent, mais parlent aussi de la société, d'un monde qui change, et pas uniquement d'un monde recréé et imaginaire. C'est ça, en fait, que Apocalypse Now symbolise et qui rend beaucoup de force à ce film, mais c'est pas tellement un film sur le Vietnam.
Ouais, donc vous diriez que c'est un film sur la manière dont les Américains ont de ne pas comprendre et de ne pas voir le Vietnam et les Vietnamiens.
Alors c'est un film sur le fantasme.
Parce que
c'est
juste,
un
on
film
peut dire,
sur le fantasme de l'autre.
Il y en a quelques-uns. Enfin, il y a la scène finale, évidemment, avec Marlon Brando et Martin Sheen, mais même au début, et au moment de la scène avec les hélicoptères, et la scène célèbre pour la chevauchée des Valkyries, il y a ces plans sur une école, un refuge, etc. Enfin, bon, il y en a quelques-uns des Vietnamiens, mais il est vrai qu'on ne peut pas dire que ça reconstitue beaucoup l'intériorité de... Est-ce qu'on pourrait nommer d'ailleurs trois personnages vietnamiens dans ce film ? Je ne suis pas sûr. Est-ce qu'ils ont des noms ? Je ne crois pas qu'ils aient des noms.
Non, certainement pas, mais c'est vraiment... Il y a quelque chose qui est à chercher au niveau de la psychanalyse ou du rapport du colon ou de l'homme blanc par rapport à au territoire conquis. Et c'est vrai que les grandes sources d'inspiration d'Apocalypse Now sont pas des récits ethnographiques, hein, sur les hauts plateaux et les populations austronésiennes qui habitent cette région, en fait, complètement sauvage du sud du Vietnam, mais c'est des grands romans occidentaux qui, à chaque fois, confrontaient l'homme blanc à la folie de l'ensauvagement. Et je pense naturellement et ça m'a amusé parce que dans la séquence de la plantation avec des Français qui a été rajoutée dans la deuxième version d'Apocalypse Now, on peut rappeler aux auditeurs qu'il y a eu trois grandes versions d'Apocalypse Now. Moi, j'aime bien la deuxième, c'est la plus longue, Apocalypse Now Redux, qui date de 2001.
Oui, ironiquement, nommée Redux, alors que elle est vraiment très longue, notamment parce qu'il y a cette séquence effectivement très onirique où c'est des planteurs français qui sont là globalement depuis l'époque de l'Indochine, et donc Martin Sheen passe une nuit au milieu de cette plantation avant de repartir le lendemain, quoi.
Voilà, et dans cette première séquence est inaugurée par l'enterrement d'un homme, en fait, de l'équipage du capitaine Willard, et parmi les Français qui entourent la dépouille et l'équipage américain, il y a la copie. Le sosie, la copie conforme de Bruno Kremer dans la 317e section de Pierre Schoendorfer, ce film mythique qui a très certainement beaucoup impressionné, en fait, les scénaristes d'Apocalypse Now. Et je me suis demandé que c'était un clin d'œil. Il y a plusieurs clins d'œil aussi dans cette fameuse scène avec la chevauchée de Valkyrie. Il y a Francis Ford Coppola lui-même qui apparaît, en fait, comme étant un journaliste qui filme l'offensive. Et là, il y a cette sosie de Bruno Kremer qui rappelle encore une fois que ce film, il est référencé naturellement à ce classique de Schoendorfer, mais Schoendorfer, n'oublions pas, en 69 avait écrit un roman qui s'appelle L'Adieu au roi, et qui racontait l'histoire d'un militaire, d'un officier britannique, me semble-t-il, rescapé de la bataille de Singapour, qui était parti dans l'île de Bornéo et qui avait créé un royaume, qui s'était autoproclamé roi des Murats, une minorité de Bornéo. Et ça, c'était l'une des sources d'inspiration, à mon avis, majeure de Coppola. On a naturellement beaucoup parlé, à juste titre, hein, du roman, de la nouvelle, en l'occurrence. C'est une longue nouvelle de Joseph Conrad, de 1899, qui raconte dans le Congo de l'époque cette remontée de fleuve pour rechercher un collectionneur d'ivoire nommé justement Kurtz. Mais c'est plus, je pense, des références vraiment liées au Vietnam qui ont marqué, en fait, les scénaristes. Je pense à Michael Eyre et John Milius et Coppola, cet adieu au roi. Et puis une histoire très réelle qui est oubliée parce qu'elle est devenue quasiment mythologique et les gens se la racontent au Vietnam toujours aujourd'hui, les gens, les Occidentaux se la racontent aujourd'hui encore au Vietnam. C'est ce personnage, cet aventurier entre l'escroc et l'aventurier dandy de la fin du 19e siècle, hein, Marie-Charles David de Mont-Réna, qui en 1888 était parti sur les hauts plateaux, ces mêmes hauts plateaux où se déroule Apocalypse Now, et avait décidé de fédérer les populations Sedang, une minorité qui vivent notamment dans la province de Kong Toum, où se passe une partie d'Apocalypse Now, où est censée se passer une partie d'Apocalypse Now, et s'était autoproclamé roi sous le titre de Marie Ier. Et puis pendant un an, il a nommé un premier ministre, il a créé une armée de Sedang, et il a essayé de rameuter, en fait, de regrouper autour de lui un royaume complètement imaginaire, avant d'être naturellement renvoyé par l'administration française et de mourir assez lamentablement sur une île malaisienne un ou deux ans plus tard. Mais il a créé ce royaume imaginaire et on a vraiment l'impression que ce Marie Ier, c'est le colonel Kurtz de Francis Ford Coppola. Et les références, elles sont là, elles sont dans cette réalité, en fait, que l'homme blanc d'une certaine façon, où le colon pouvait avoir vis-à-vis des terres sauvages et de ce qu'on appelait à l'époque les Moy, les sauvages en vietnamien, qui peuplaient cette partie du territoire.
Alors, c'est vrai, c'est sans doute des références, mais en même temps, on peut dire que le cœur de l'intrigue est quand même assez lié avec la guerre du Vietnam, et notamment, malgré tout, c'est un peu l'idée du colonel Kurtz. C'est quelqu'un à qui on a fait faire des choses. Des assassinats, etc., qu'on a fait un béret vert, une force spéciale, à qui on a fait faire des choses innommables, et à qui, à force de faire des choses innommables, qui a vrillé, et qui est parti dans ce délire, et dans ce réduit le long de la frontière cambodgienne. Donc ça, vous, spécialiste du Vietnam, même si ça ne parle pas, enfin, c'est pas un regard documentaire sur le Vietnam, mais en tout cas, dans quelle mesure, qu'est-ce que ça dit, qu'est-ce que ça décrit peut-être de choses qui se sont vraiment passées dans le cadre de la guerre du Vietnam telle qu'elle a existé?
Alors, la première chose, et le personnage interprété par Marlon Brando dans Apocalypse Now, le colonel Kurtz le répète régulièrement dans le film, c'est qu'il montre en fait qu'il y a une déconnexion entre la réalité du terrain, des populations locales et les décisions prises par les politiques à Washington vis-à-vis de leurs troupes sur place. Et ça, c'est une des thèses en fait soutenues par Coppola, qui a été par la suite reprise. C'est vrai, c'est qu'il y a vraiment un décalage, il y a une méconnaissance en fait du terrain par les États-Unis qui explique en partie ou qui pourrait expliquer en partie le naufrage de 1975. Et Kurtz le dit, hein, une armée de conscrits, ça ne marche pas. Il faut des troupes, des forces spéciales, il faut des gens qui sont aguerris, il faut des gens qui connaissent le terrain, qui parlent les langues, et c'est comme ça, même en nombre bien plus réduit, que la guerre pourra être gagnée. Donc il y a vraiment et dans les plusieurs séquences du film, il y a des protagonistes qui mettent en avant le fait que les politiques ne comprennent rien à rien, en fait, dans cette guerre, et c'est pour ça que ça devient une grande farce. Et donc c'est pour ça que pour moi, Apocalypse Now est vraiment un film qui est un constat assez dur sur l'Amérique, c'est ce qu'elle est devenue, et sur qui serait à l'origine, encore une fois, d'une défaite militaire qui n'aurait pas dû avoir lieu. Et pour ça, il faut penser en fait à ce qui était le secrétaire d'État à la Défense à l'époque, un homme assez incroyable qui s'appelle Robert McNamara, qui a été secrétaire d'État à la Défense de 61 à 68, donc sous Kennedy et sous Johnson, avant d'être remercié avec le tournant de Nixon de la guerre en 68, remercié et au passage de devenir de diriger la Banque mondiale. Donc c'est plutôt une promotion.
Il y a des bons points de chute pour les anciens secrétaires d'État.
Mais ce secrétaire d'État, en 1995, il a écrit ses mémoires sous le titre français de la tragédie et les leçons du Vietnam, des mémoires qui ont été traduites directement en vietnamien et qui ont connu un énorme succès au Vietnam. Et dans ses mémoires, permettez-moi de le citer, parce que il le dit, il l'écrit dès les premières pages. « Je n'avais jamais été en Indochine. Je n'en connaissais ni l'histoire, ni la langue, ni la culture, ni les valeurs. Mes collègues et moi décidions du destin d'une région dont nous ignorions tout. » Et je crois que c'est l'une des leçons en fait, du film de Coppola. c'est qu'il montre encore une fois une bande de jeunes, tous plus ou moins drogués, complètement laissés à l'abandon, sans hiérarchie, ou quand on voit des officiers, en fait, ils sont à moitié tarés, comme le colonel Klingel, me semble-t-il, qui gère en fait des troupes aéroportées en étant fan de surf et de Wagner. Et c'est cette folie-là, en fait, qui est véritablement
le personnage
du
Robert Duval avec son chapeau de cavalier.
Tout à fait. Et c'est cette folie-là, en fait, qui est vraiment le sujet du film, et c'est ce constat politique par le nouvel Hollywood, qui est de dire, écoutez, voilà quoi, on a échoué, cette guerre était d'une certaine façon pas forcément légitime, parce qu'on n'a pas compris, en fait, contre qui on se battait et comment ça se passait sur le terrain.
Et est-ce qu'on peut dire, juste du constat opératif de Kurt, c'est-à-dire l'idée que les forces spéciales, elles, ramènent des vrais succès, des grands succès, alors que l'immense masse de l'armée de conscription américaine, elle, n'a servi à rien. Est-ce qu'on a une idée de la pertinence ou pas de ce constat, de cette idée à la lumière de la guerre du Vietnam? Est-ce que c'est juste un fantasme, un délire de... Parce que, bon, ça va dans le mythe des forces spéciales, enfin, des bérets verts, etc., des gens qui se pensent aussi comme des soldats d'exception, et ça fait partie de cette espèce d'éthique, etc. Et bon, on en parle souvent à ce micro, c'est une question qui est posée toujours aux forces armées, du statut et des représentations qu'on a de ces soldats d'élite. Mais est-ce qu'on peut dire la pertinence de ça dans le cadre de la guerre du Vietnam?
Alors, les experts militaires sont revenus sur la notion notamment des pertes de l'armée américaine. Hein. C'est le Vietnam, la guerre du Vietnam, 64, 65 jusqu'à 75, c'est 58 000 soldats américains qui sont morts. C'est, rappelons-le, quand même deux fois moins que pendant les premiers mois de la Première Guerre mondiale ou de l'engagement américain dans la Première Guerre mondiale en Europe. Donc c'est beaucoup, mais en même temps relativement à un conflit terrestre de cette importance, ça doit être aussi contextualisé. Alors, est-ce que si les choix politiques, parce que c'est encore une fois, c'est ça qui était le sujet, en fait, avaient été centrés ou avaient mis en avant, en fait, une intervention d'experts, de forces spéciales sur le terrain, ça aurait limité, un, les pertes côté américain, deux, les pertes côté vietnamien. Les pertes côté vietnamien, c'est quand même, on estime à la louche, à 3,5 millions de morts, hein, côté sud-vietnamien, côté nord-vietnamien, côté population civile. Là, c'est difficile de pouvoir le répondre. Ce choix n'a pas été fait par l'état-major américain, ce choix n'a pas été fait par la classe politique américaine dans les années 60. Il y avait aussi un rapport qui était très clair, un, lié à la guerre froide. N'oublions pas que la République démocratique du Vietnam, depuis son indépendance en 1954, est fortement soutenue par le camp socialiste, hein, par la Chine de Mao Tse-Tung prioritairement, et puis un petit peu plus discrètement, mais quand même, par l'Union soviétique dans les années 60. Donc il y a vraiment un combat contre l'Empire du Mal qui a habité la classe politique américaine sans nuance, c'est évident. Et après, il y a ce régime nationaliste, sud-vietnamien, pro-américain, pro-occidental, qui est un peu un îlot à protéger dans une Asie du Sud-Est ou dans une Asie qui est en train de devenir méchamment, de s'éloigner des idéaux occidentaux. Donc il y a ça aussi comme raison, comme motivation qui est très ancré en fait dans la décision américaine de lancer des opérations de masse et la conscription sur son territoire.
Mais il n'y a jamais eu de... Parfois on parle du programme Phoenix, d'assassinats ciblés de leaders nord-vietnamiens, on imagine notamment avec des forces spéciales. Est-ce que... Voilà, on imagine que c'est une référence plus ou moins directe à ça, que ce personnage du colonel Kurt. Est-ce qu'on a une idée de si ça a marché, de comment ça a marché?
Il y a évidemment eu toute une série d'opérations sur le territoire qui ont conduit à ce type de décision. Mais, et justement, dans le film, il y a aussi dans la première partie du film des références à ces exactions américaines, au massacre de My Lai, à tous les excès en fait que la guerre américaine a conduit sur le territoire. Mais ce qui est intéressant, me semble-t-il, c'est de montrer que tout ça n'a pas été complètement piloté. Même les gens qui envoient le capitaine Willa faire sa mission pour remonter la rivière Nung, ils ont une connaissance, encore une fois, des dangers ou des populations locales assez parcellaires. À aucun moment, ils détaillent la présence du Viet Minh dans cette zone, qui était, on est à la fin des années 60, hein, 68, 69, début des années 70, on est déjà à un moment où le Viet Minh du Nord donc, a déjà investi le centre Vietnam. Hein. Je rappelle que l'offensive du Tet, janvier-février 1968, c'est le tournant de la guerre du Vietnam, et c'est une grande victoire pour les Vietnamiens, et c'est le moment où les Américains se disent que finalement, ils vont pas pouvoir tenir le pays. Mais c'est pas l'objet. C'est pas l'objet, en fait, de ces officiers généraux qui envoient Willard sur son bateau, avec son équipage, remonter cette rivière Nung pour pouvoir capturer et tuer le colonel Kurtz. On voit bien que c'est des règlements de compte intra-américains, en fait, qui habitent la tête des scénaristes et qui habitent la tête de Coppola, pour mieux pouvoir se dire que ce qu'a fait l'Amérique... On est loin des Bérets Verts, hein, ce film que John Wayne avait co-réalisé en 1968, qui est un film de propagande incroyable sur l'efficacité sur le terrain au Vietnam des Bérets Verts ou de l'armée américaine. Là, on est vraiment dans une époque où c'est une remise en cause complètement punk, complètement de 10 ans de folie à la fois populaire et politique.
Et justement, puisque on l'a dit, ils sont largement absents. Même si, enfin bon, on pourrait parler aussi d'ailleurs de la représentation des Vietnamiens, enfin des Cambodgiens à la fin du film, et parce qu'ils sont dans un statut un peu servile, quoi, vis-à-vis de Kurt, on a l'impression qu'ils passent leur, on a l'impression d'une masse cruelle, essentiellement aux ordres de quelqu'un encore plus cruel qu'eux, mais on a l'impression quasiment d'une secte, voilà. D'une part, comment est-ce qu'on caractériserait cette représentation des Vietnamiens ? Et puis, la deuxième partie, c'est comment est-ce que, du coup, le film a été reçu ou pas reçu au Vietnam ? C'est-à-dire que c'est un film culte pour les Occidentaux, mais dans quelle mesure est-ce que c'est un film qui peut aussi passer notre référentiel occidental ?
Alors, si on se base sur l'histoire que Coppola et ses co-scénaristes ont voulu raconter... Le colonel Kurtz n'est plus sur le territoire vietnamien, il est de l'autre côté de la frontière, il est au Cambodge. Tout le décor, en fait, du palais qu'occupe le colonel Kurtz dans la dernière partie du film, c'est un temple khmer. Et les populations qui peuplent, en fait, qui sont l'armée, en fait, du colonel Kurtz, que le colonel Kurtz recommande, en fait, de bombarder à la fin du film, ne sont de facto pas des Vietnamiens. Donc, il y a C'est des populations transfrontalières, des populations de minorités ethniques. Je vous rappelle que le Vietnam est peuplé de 54 minorités ethniques différentes et le peuple majoritaire, le peuple Khmer, est absolument, totalement absent de ce film. Et c'est pour ça que la scène qui a été la fameuse séquence, en fait, des planteurs français avec Hubert de Marais comme étant le chef de famille qui apparaît dans cette deuxième version, dans cette version Redux, et qui a été conservée dans la dernière version, le Final Cut proposé par Francis Ford Coppola en 2019 de mémoire, elle repositionne le film dans le cours de l'histoire vietnamienne. Et c'est ça qui est intéressant. C'est pour ça que cette séquence qui est très bavarde. Certains ont pu dire oui, peut-être.
La raison pour laquelle il était pas, c'est que Coppola l'a coupé dans la première version parce qu'il trouvait que ça marchait pas, on peut le dire.
Et ben je trouve que c'est au contraire qu'elle est essentielle parce qu'elle contextualise véritablement l'intégralité du film. Ce film devient un film quasi historique, même si tout est recréé, parce que cette séquence a retrouvé sa place. Parce qu'elle montre encore une fois la façon dont Français et Vietnamiens et Américains ont cohabité au fil du siècle, au fil du XXe siècle, et ils réoffrent aux spectateurs une chronologie et une histoire qui dépasse en fait le cadre de cette remontée complètement fantasmatique, cérébrale du fleuve Nung du capitaine Willard. Et je trouve encore une fois que ce film devient vietnamien, entre guillemets, grâce à cette séquence des planteurs français.
Alors même qu'on y voit au fond peu de Vietnamiens quand même.
C'est intéressant parce que le Vietnam a été une colonie de, n'a pas été une colonie de peuplement. Donc les populations occidentales et les Français sous l'Indochine française étaient très très peu nombreux et extrêmement localisés dans les villes. Donc la famille comme la famille de Marais, donc cette famille de planteurs que l'on découvre dans Apocalypse Now, ils étaient rares en fait, ces planteurs français à partir au fin fond de la jungle pour pouvoir exploiter en fait leurs arbres à caoutchouc, etc. Mais voilà, c'est une façon de remettre en fait une continuité dans l'histoire du Vietnam, dans son rapport à l'Occident. Parce que c'est ça le sujet en fait. On est passé du fantasme de Marie Ier en 1888 à celui du colonel Kurz au début des années 70. Mais dans les deux cas, en fait, les populations vietnamiennes Kinh, majoritaires, ne sont plus là, n'existent pas. Et ces minorités de montagnards habillées de pagne et de façon assez frustre se positionnent en fait le rapport en fait que nous avions dans nos têtes vis-à-vis des conquêtes en fait des territoires que nous voulions conquérir et administrer à l'époque. Donc il y a quelque chose qui est intéressant mais qui est pour moi beaucoup plus au niveau de la psyché occidentale vis-à-vis de ces territoires dirigés et conquis en Asie.
Et vous en avez déjà parlé avec des Vietnamiens d'Apocalypse Now ?
Alors ce film, comme toute une série de films sur la guerre du Vietnam, ils ont été très très nombreux, et je pourrais naturellement citer les trois films français qui ont participé au tournant du Doi Mui, en fait, de la réouverture du Vietnam depuis 30 ans, qui sont Indochine, de Régis Vernier, Dien Bien Phu, de Pierre Schoendorfer, bien sûr, et L'Amant de Marguerite Duras, adapté par Jean-Jacques Hano. Ces trois films, en fait, n'ont pas eu, ont toujours été regardés avec un certain sourire en coin, en fait, oui, au Vietnam. Et ce sont des films d'occidentaux. Ce sont des films qui parlent d'eux sans véritablement en faire le sujet. Donc, c'est des films qui sont populaires et qui ont popularisé l'image ou les clichés du Vietnam en Occident, mais qui participent pas à nourrir de l'intérieur le rapport vietnamien-occidentaux pour les Vietnamiens. Et donc Apocalypse Now ne fait pas partie en fait de films cultes pour les populations vietnamiennes. Le fait qu'il ait été tourné, ça c'est anecdotique, mais aux Philippines, parce qu'il était impensable naturellement en 77 de tourner un film comme Apocalypse Now au Vietnam. Le pays s'apprêtait à rentrer à nouveau en guerre contre la Chine cette fois-ci. Voilà, c'est un film qui d'une certaine façon fait dialoguer l'Occident vis-à-vis de ses fantasmes avant tout. C'est pas, ça lui enlève en rien de ses qualités ou de sa folie ou de son côté vraiment de chef-d'œuvre cinématographique, mais c'est autre chose. C'est pas un film complètement sur le Vietnam, c'est un film sur ce qui nous a guidés, nous, d'une certaine façon occidentaux, à vouloir conquérir une partie du monde. Et c'est ça en fait, le capitaine Willard, il le dit lui-même, hein. Il est rentré, il a essayé de rentrer aux États-Unis, dans son pays, il a divorcé de sa femme, il pouvait plus voir son enfant, et il est tout de suite reparti parce qu'il y a une coupure nette et que ce Vietnam saignant, c'est dans quelque chose qui est très profondément ancré dans la tête, dans l'esprit, dans le psyché de ces conquistadors d'une nouvelle époque et qui ont été meurtris par la fin d'un monde.
Merci beaucoup, Trilogue.